Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Qui ne connaît pas Saint François d'Assise? En Italie, 8 siècles plus tard, l'homme reste le plus célèbre peut-être de la péninsule. Depuis que le cardinal Jorge Bergoglio a été choisi 266e pape de l'histoire, la publicité faite à ce saint, premier stigmatisé également de l'histoire, n'en a été que plus grande. Un fondateur d'une telle envergure qu'il éclipse quelque peu les autres figures franciscaines, ces autres hommes et femmes qui tentent comme lui la folle aventure d'essayer de devenir d'autres Christ. Coup de zoom ce matin sur 3 d'entre elles. Les disciples de Saint François d'Assise, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, avec en plateau le frère Éric Bidault, ministre provincial des Capucins en France. Bonjour.
Bonjour.
Alors, il faut commencer par peut-être dire quelques mots des Capucins. En 2-3 mots, c'est une des familles spirituelles franciscaines. Comment vous la présenteriez ?
Avec toujours cette idée du renouveau à Saint François. Comme vous l'avez dit dans votre introduction, François d'Assise sature l'écran. Et donc il y a toujours une référence à travers toute l'histoire et encore jusqu'à aujourd'hui à François. Et parfois en éclipsant comment le charisme, comment l'intuition de François s'est transmise. On peut penser aux franciscains du Bronx par exemple aux États-Unis qui veulent le retour au François réel et véritable. Et chacune des réformes est celle des Capucins au XVIe siècle. Qui donc 1528, en même temps que la création des jésuites, que le renouveau du Carmel avec Thérèse d'Avila, veut essayer d'un retour à Saint François pour le temps et de manière nouvelle. Et donc il y a une radicalité dans la réforme capucine et que nombre de saints ont essayé de vivre, et on va en parler de quelques-uns aujourd'hui.
C'est-à-dire radicalité, j'ai cru comprendre, chez les Capucins, vous aviez une vie plus cloîtrée peut-être que
d'autres
franciscains.
Alors la radicalité, non, elle n'était pas sur le cloître, elle était sur la solitude, c'est-à-dire la radicalité d'un cœur qui est vraiment brûlé dans l'oraison et l'érémitisme par la présence de Dieu, et dans l'apostolat, dans le zèle apostolique, avec des manières très entières, des manières... oui, vraiment un peu brûlé, cramé, on pourrait presque dire, aujourd'hui.
Donc ça, c'est pour l'introduction pour les Capucins. Saint François d'Assise, donc on ne va pas en parler. Je fais une précision, c'est que j'ai laissé entendre qu'on allait parler d'hommes et de femmes, mais on est peut-être un peu macho ce matin, on va ne parler que de quelques hommes. Pourtant, Dieu sait s'il y aurait beaucoup de figures de femmes à citer. Avant qu'on parle de nos trois saints, alors je vais les citer. Il y a le père Marie-Antoine de Lavore. Alors peut-être que certains de vos auditeurs vont se dire « Mon Dieu, encore !» Mais d'autres, probablement, on n'écoute pas tous les matins ou ne sont pas familiers de cette figure de sainteté. Peut-être qu'avec vous, on le redécouvrira à frais nouveau. Donc ce franciscain a appelé aussi le saint de Toulouse. Le père Marie-Joseph, qui est décédé en 1993, qui a vécu en Alsace, c'est bien ça. Hein. Et puis un franciscain fort méconnu, enterré à Lourdes, et sur la tombe duquel ne cessent de défiler les pèlerins. Qu'est-ce que vous diriez peut-être pour commencer, à propos de mon introduction, est-ce que le fait que le pape François ait choisi de s'appeler, que le cardinal Jorge Bergoglio ait choisi de s'appeler François, premier pape dans l'histoire à prendre ce nom, si je ne me trompe pas, vous qui êtes de cette famille, vous avez senti du coup un intérêt renouvelé peut-être pour la spiritualité franciscaine ?
Alors. Sous le nom de François, c'est un jésuite habillé en dominicain. Ça, c'est la blague assez commune, puisque l'habit blanc vient aussi de l'habit dominicain. C'est le thème de la pauvreté. Hein. Le pape François l'a expliqué plusieurs fois. Son voisin cardinal, au moment du conclave, lui a dit « N'oublie pas les pauvres ». Et François, le pape François, dira « Voilà, je veux une église ouverte aux pauvres et pour les pauvres ». C'est tout le thème des périphéries, c'est tout le thème des migrants, c'est voilà, tout le thème de ceux qui sont dans le besoin, qui sont dans la détresse, et que son cœur de pape, son cœur de père, veut entendre et veut accueillir. Ça, il l'a expliqué très clairement, c'est pour remettre sur le devant les pauvres qui sont, comme disait Saint Laurent au moment de son arrestation, qui sont le trésor de l'Église.
Ma question portait aussi sur, est-ce que vous avez senti un regain d'intérêt pour la spiritualité franciscaine ou pour la figure de Saint François depuis l'élection du pape, ou est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à toucher du doigt?
Oui, concrètement, par des pèlerinages à Assise, on voit que c'est beaucoup plus intégré, c'est un petit signe, mais dans la formation des séminaristes, par exemple, aujourd'hui, j'ai accompagné plusieurs presbytériums, plusieurs équipes de séminaristes à Assise, on sent que maintenant ça fait partie intégrante de la formation. Après, l'intérêt de Saint-François, on n'a pas attendu le pape François pour... Il est largement connu, mais fait étonnant, peut-être pas autant prié que d'autres. On aime Saint-François, mais je ne sais pas si on va le prier comme Saint-Antoine, par exemple.
Oui.
Ça, c'est un phénomène un peu intéressant à étudier.
Ou comme Padre Pio, en tout cas peut-être pour l'Italie. Alors si on se plonge dans la vie du Père Marie-Antoine, donc on va peut-être aller plus vite que pour les autres. Je le dis aussi par souci de, peut-être de pédagogie. On va essayer de raconter rapidement la vie de chacune des figures dont on va parler, d'essayer d'extraire un point peut-être saillant, en tout cas un point que vous avez choisi, et puis de voir comment essayer de le vivre dans notre vie. Si on prend le Père Marie-Antoine, donc le Père Marie-Antoine, pour ceux qui ne sauraient pas encore, est né à Lavore, donc en 1825, prêtre français, décédé donc en 1907, donc grande figure de l'ordre franciscain, qui était lui-même capucin. Il n'a pas toujours été capucin, mais du moins il l'est devenu, et puis il est venu s'établir à Toulouse. Qu'est-ce que vous diriez ou vous rajouteriez sur cette courte présentation, avant qu'on parle peut-être un petit peu plus de son zèle missionnaire qui a laissé quelque empreinte dans notre région ?
Effectivement, un prêtre diocésain, vicaire à Saint-Gaudens, et qui, lors d'un chemin de croix, va entendre cette parole « Deviens capucin, deviens capucin ». Alors après, il va entreprendre un discernement, il va attendre, puis un jour, il va rencontrer un jésuite ici à Toulouse qui va lui dire « Maintenant, c'est le moment, allez-y ». Et il rentre au noviciat à Marseille, puisque les capucins sont en voie de retour après les expulsions de la Révolution. Moi, ce qui me frappe, et on le voit dès le début, même avant son entrée chez les Capucins, c'est le zèle. Le zèle dans la Bible, c'est un amour jaloux, un amour de Dieu, et on y met toute son énergie. Et déjà comme vicaire, le père Marie-Antoine est attentif aux pauvres et développe une énergie. Déjà, il donne son matelas. Déjà, il a des gestes très concrets. Il a un zèle déjà qui s'exprime. Et ce zèle, le Seigneur va venir le travailler, va venir le visiter au point de devenir cet apôtre dont vous allez sans doute dire quelques mots, de tout le Sud-Ouest.
Alors, normalement, c'est moi, je ne me pose que les questions, mais disons que...
Mais maintenant, je vous passe la parole.
Je vous aide, voilà, je vous accompagne. En tout cas, s'il est connu, c'est souvent pour ça qu'on le cite ici, c'est que ça a été un grand missionnaire, au moins dans le sud-ouest de la France. Il est connu parce que il aurait été un peu l'auteur des premières processions au flambeau à Lourdes, tout comme à Rocamadour. J'ai revu ça en préparant. Sur ce zèle missionnaire, qu'est-ce que vous retiendriez également ? On dit que c'est plusieurs centaines de missions apostoliques dans le sud-ouest.
D'abord, ce n'est pas que des succès, ces missions. Il y a des échecs, hein. Il y a des échecs patents, il y a des moments où les paroissiens ne répondent pas, et puis parfois à la faveur d'un... Ce qui est associé à ce zèle chez le père Marie-Antoine, c'est toujours une finesse de la situation qui lui fait dire qu'il y a encore des portes entrouvertes et qu'il faut absolument essayer d'aller voir du côté de ces portes entrouvertes. Et donc si les gens ne viennent pas à l'église, il faut aller là où vont les gens. Si les gens sont à l'usine, il y va rigoler avec les gens. Et petit à petit, il y a une familiarité, il y a une amitié qui se crée, et ça devient l'ami. Et on va écouter le soir à l'église, à la mission, on va écouter l'ami. Et on a des épisodes intéressants sur ce charisme finalement de l'amitié. Et c'est peut-être un côté de la sainteté franciscaine ou de la sainteté des prédicateurs capucins en particulier. Hein. C'est à la fois cette parole simple, cette parole populaire et cette capacité à être près des gens et que les gens se sentent près de Dieu avec le missionnaire.
Alors, vous vouliez développer justement comme thème celui de la compassion. Je cite donc un passage. C'est un certain monsieur Lorda, donc, que le père Marie-Antoine va visiter. Semble-t-il, il frappe à sa porte. Cet homme, donc, ce que je lis est un extrait de Mes Souvenirs, paru aux éditions du Pêche. Il frappe à la porte de cet homme, rapporte cet ouvrage. Le monsieur ne répond pas, puis il retoque. Le monsieur lui laisse entendre qu'il a pas vraiment envie qu'il rentre. Et puis, il est rapporté que le père Marie-Antoine lève les yeux au ciel et dit « Sainte Vierge, au secours ». Et puis, la porte est entrouverte, le père Marie-Antoine rentre, l'homme se met presque à rugir, se demandant qui est ce franciscain barbu qui débarque chez lui. Et puis, je vous laisse raconter la fin de l'histoire et peut-être pourquoi vous avez choisi ce passage.
Alors oui, je continue la lecture. Le père Marie-Antoine, devant ce rugissement, ne perd pas sa contenance, mais lui dit « Calmez-vous, mon ami !» « Regardez-moi bien, Je suis votre ami. Et que vous donne-t-on là à manger et à boire? Prenez bien garde, ce n'est pas ce qu'il faut à votre santé. Oh, que vous êtes mal soigné, il était temps que je vienne. Donnez-moi le bras, voyons votre pouls. Et il m'offre son bras. Je le comprenais bien que vous aviez la fièvre. Il était temps que j'arrive, il faut changer de régime. Si Dieu ne m'avait pas envoyé, vous étiez perdu. Il se cama aussitôt et me regarda avec des yeux reconnaissants. Je le disais bien, moi, qu'il ne fallait pas ce régime. Quelle patience il faut avoir. On a là tous les ingrédients du zèle pastoral du Père Marie-Antoine. D'abord, la place de la Vierge Marie. Ô Vierge Marie, au secours. Ô Vierge Marie, au secours. Le Père Marie-Antoine, dès le début, et c'est pour ça que ça va devenir l'apôtre de l'Immaculée, qui va développer tous ses pèlerinages à Lourdes, faire danser les cierges par la procession au flambeau, mettre l'Eucharistie au centre. Là, peut-être de manière un peu chauvine, on peut dire que la pastorale actuelle du sanctuaire de Lourdes, c'est le Père Marie-Antoine qui l'initie. Il n'est pas seul, il y a le curé de paroisse, etc. Mais il a ce zèle à ce moment-là pour la Vierge Marie qui l'assiste dans ses missions. Et puis deuxièmement, comme je le disais, cette dimension de l'amitié. Voilà, plutôt que d'aller tout de suite en disant « convertissez-vous d'abord », la personne est malade, il va s'intéresser. Il va s'intéresser à sa santé, il va s'intéresser à son pouls, il va même se faire médecin, il va jouer un peu. Quelqu'un d'assez facétieux quand même, le Père Marie-Antoine. Et puis petit à petit, il va y avoir une relation de reconnaissance, une relation d'amitié. Et je pense que ça dit beaucoup sur l'évangélisation aussi. On va parler de la compassion, mais sur l'évangélisation, dans le livre « Sagesse d'un pauvre », Éloi Leclerc se pose la question « qu'est-ce qu'évangéliser ?» Eh bien, évangéliser, c'est révéler à quelqu'un qu'il est aimé de Dieu. Et on révèle à quelqu'un qu'il est aimé de Dieu, pas en lui assénant d'abord des paroles, mais en étant avec lui, en prenant soin de lui. Et c'est ce que faisait le père Marie-Antoine. Alors ce thème de la compassion, eh bien finalement, c'est d'avoir des entrailles qui frémissent à la douleur et à la souffrance des autres. Quand il prêchait chez des Clarisses, par exemple, il dit aux sœurs, écoutez, je vais vous faire une prédication très courte parce que vous n'en avez pas trop besoin, mais il y a quelqu'un qui souffre dehors. Et je vais aller le voir. Donc il laissait les Clarisses en plan et il allait voir la personne dehors. Cette dimension de la compassion, c'est vraiment des entrailles, comme on le lit dans le prophète Osée, comme le pape François l'a mis en valeur pendant l'année de la miséricorde, c'est des entrailles qui se laissent toucher par la misère, par la pauvreté, par la souffrance, par le besoin, par l'appel de l'autre.
Pour finir, si vous deviez donner un conseil spirituel, pour ceux qui auront envie donc de parcourir la vie du Père Marie-Antoine, donc on les invite à, entre autres, à lire Mes souvenirs, donc paru aux éditions du Pêche. Et si ils ont entrevu quelque chose de ce que vous avez essayé de souligner dans la vie du Père Marie-Antoine, donc cette attention, cette compassion qui est la vraie manière peut-être d'évangéliser, pâtir avec, savoir rejoindre, manifester la misère. Miséricorde de Dieu, le pape François en parle souvent. Qu'est-ce que vous diriez, quel serait le conseil spirituel pour que ça atterrisse dans nos vies? Comment passer d'un cœur dur, peut-être que l'on peut avoir, à un cœur, voilà que je ne retrouve plus l'expression de l'évangile, mais je vais vous
un
laisser.
Cœur de chair, un cœur de chair. Le prophète Ézéchiel. En fait, on est souvent sur la défensive et c'est une réaction que nous avons beaucoup aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas envie de se laisser entraîner au-delà de notre petit confort, de ce qu'on a prévu de faire, de la manière dont on a organisé les choses, etc. Et on se dit, c'est mon petit bonheur et je le tiens. Et en fait, on se prive d'une des dimensions importantes de notre être et de notre personnalité aussi, c'est la sensibilité. La manière de se laisser toucher par autrui. Et pas simplement de se dire où est-ce que cela va m'entraîner, mais d'abord de se laisser toucher, d'ouvrir en tout cas sa sensibilité à celui qui souffre, à la parole de l'autre. Et ça c'est très lié, on en parlera après, au thème de la vie de prière aussi. Comment la vie de prière, c'est un cœur qui s'ouvre. Et le pape François, dans son exhortation sur la joie et l'allégresse, Gaudete et exultate, au numéro 131, il a ce mot sur la compassion, et je trouve que ça parle vraiment bien du Père Marie-Antoine et pour nous. C'était une compassion, dit-il, de Jésus, et on peut le dire aussi pour nous, qu'il incite à sortir de lui-même avec vigueur pour envoyer guérir et libérer. Voilà, il y a quelque chose, une sortie de nous-mêmes par la sensibilité et qui est un chemin d'accomplissement pour nous.
Si matis Christus amaginum, ita predictis Johannes miraculum, ita predictis Johannes predictis miraculum. Ascendi, non facis credilu, Patrita ascendi, non facis credilu, non facis credilu.
Disciples de Saint François d'Assise, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, avec pour rappel autour du plateau le frère Éric Bidot, ministre provincial des Capucins en France, voilà, qui était de passage à Toulouse et qui nous a fait l'amitié de passer par les studios de Radio Présence. On a de la chance, on a du monde qui passe par notre radio. On s'est dit comme deuxième figure franciscaine qu'on allait partir à la découverte, là je pense que ça sera une découverte pour la quasi-intégralité de nos auditeurs, du père Marie-Joseph. Alors c'est un franciscain qui est décédé en 1993, qui est décédé à un certain âge puisqu'il est né en 1907. Qu'est-ce que vous diriez peut-être pour présenter ce franciscain en mot d'introduction et quelques mots sur ses origines familiales? J'aime bien souvent dans les biographies parler quand même de la famille, on ne vient pas de nulle part la plupart du temps.
Oui, le père Marie-Joseph, donc, c'est à l'autre bout de la France, hein, c'est en Alsace, et puis il va vivre au couvent de Bitsch, qui est dans le nord de la Moselle, pratiquement à la frontière allemande. Voilà, une origine rurale près de Strasbourg, avec Bolsheim. Une sœur qui deviendra religieuse, avec laquelle il aura pas mal de correspondances et de confidences aussi sur sa vie spirituelle, sa vie de relation à Dieu et aux autres. Et une famille rurale. C'est étonnant, et j'en parlais encore récemment avec des sœurs Clarisse ou avec des frères, comme vous le dites, l'importance des parents. Les parents, je pense à une sœur Clarisse qui me disait ce matin mes parents, ils disaient l'évangile et ils le vivaient. Et ça me marque toute ma vie. le témoignage des parents dans l'honnêteté entre ce qu'ils sont, ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ben, c'est sans doute l'élément de l'éducation le plus fort.
Donc cet homme donc devient frère mineur capucin, lui aussi, hein, c'est aussi un capucin. Voilà, donc il étudie la philosophie, la théologie. On peut dire peut-être qu'il a eu une attention particulière à l'histoire de l'Église. J'ai cru comprendre que ça avait quelque importance de le mentionner.
Oui, donc il va venir enseigner l'histoire de l'Église, notamment ici à Toulouse, au moment où, pendant la Seconde Guerre mondiale, donc les frères vont devoir évacuer et venir en zone libre, et ça donnera au père Marie-Antoine, au père Marie-Joseph, un sens de la vie de l'Église, un sens des intuitions aussi qui se développent tout au long de l'histoire de l'Église. On ne naît pas de rien, le Concile Vatican II n'est pas né de rien. Il y a des mouvements plus profonds dans la quête, dans les recherches du peuple, à l'intérieur du peuple de Dieu, et qui vont s'exprimer à certains moments, comme au Concile Vatican II.
Alors venons-y, parce que j'ai cru comprendre que cet homme avait été probablement, c'est pas le seul, hein, mais assez visionnaire en son temps, puisque donc il avait la charge d'une partie donc de l'ordre franciscain séculier. Vous allez nous dire ce que c'est, et il s'est beaucoup attaché à essayer d'accompagner les fidèles, enfin les laïcs simples Pékin lambda, j'allais dire, que nous sommes, à suivre le Christ. Et pour lui, ça avait une attention particulière, avec une attention aussi très importante sur la grandeur et la vocation du mariage. Et c'est quand même donc dans l'après-guerre, c'est ça.
Voilà, hein, on est dans l'après-guerre.
Presque 10 ans, si c'est pas 15 ans avant le.
Voilà, le père Marie-Joseph, il est avant la proclamation, le rappel, peut-être évident, mais il fallait le dire, et ça continue à faire du bien, de l'appel universel à la sainteté. Le père Marie-Joseph le cultive déjà, a un souci profond de la vie de famille pour la transmission de la foi, avec l'éducation et le souci de la vie spirituelle, de la vie fraternelle des plus jeunes, de toutes les classes d'âge. Un appel à la formation de ces laïcs. Le père Marie-Joseph insistait beaucoup sur la formation et sur l'engagement dans la société, pour l'accompagnement des familles, dans le syndicalisme, dans la vie sociale, dans la vie politique, y compris dans la vie missionnaire. Je pense à un médecin que le père Marie-Joseph a convaincu de partir s'occuper des lépreux à Madagascar, et il est parti, il a donné toute sa vie aux lépreux de Madagascar. Donc voilà, un homme qui avait des horizons très grands et qui avait vraiment un sens de ce qui est bon pour maintenant, pour tenir le cap d'une vie chrétienne, et dans le mariage aussi, en s'apercevant bien que voilà, le mariage est attaqué, que l'individualisme rampant qui nous marque fait que il est difficile de s'engager pour la vie et de voir dans la fidélité qu'il y a un chemin de croissance.
L'ordre franciscain séculier, en quelques mots, qu'est-ce que
Alors,
c'est ?
Alors, l'ordre franciscain séculier, donc du vivant de Saint François, il y a des hommes, des femmes mariées qui veulent vivre de l'esprit de François, mais qui ne vont pas tout abandonner parce que pour entrer dans la vie consacrée. Et donc, François leur dit « Restez dans votre état de vie, mais je vais vous écrire une lettre ». Alors, le père Marie-Joseph définissait comme ça, j'ai quelques mots là sous les yeux. « Le disciple de François apprend à travers temps et contre temps à fuir la feinterie, le culte des apparences, à rechercher le support mutuel dans la patience, dans le respect de diversités légitimes. La communion fraternelle, c'est une vive force, un dynamique ressort pour le don de soi. » Donc en fait, c'est une école de vie, selon l'Évangile, avec un engagement, une profession, on appelle ça. Donc aujourd'hui encore, sur Toulouse, il y a des groupes de l'ordre franciscain séculier. Ce sont des équipes de vie, des équipes de relecture et d'engagement dans la vie sociale de la cité.
Pour ce qui est de la biographie, si ça ne vous dérange pas, on va s'arrêter là, moins que vous vouliez rajouter quelque chose.
Souligner la dimension de paternité du père Marie-Joseph. Ça revient beaucoup auprès de jeunes qui sont maintenant prêtres, religieux, religieuses, mariés. Voilà, un homme qui était proche.
Et qui l'ont connu, et qui était proche,
et qui ont vraiment senti son regard et son accompagnement d'un père qui veut l'engendrement des autres à la vie de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé il y a quelques mois l'ouverture de son procès en béatification, et l'ouverture a eu lieu le 1er décembre à l'évêché de Metz.
1er décembre 2017. Je vous ai même vu en photo dans un article de presse.
Eh oui, vu.
Donc voilà.
Vu et confirmé.
Vous ne racontez pas de sornettes.
C'est un essai.
Il y a un point que vous vouliez souligner à propos de sa vie, c'est qu'il incitait à temps et à contre-temps, les gens qui l'accompagnaient, qui l'aimaient, qui lui étaient confiés, à la franchise du cœur, à la droiture et à persévérer dans la prière. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cela ?
Alors, je me souviens, là, j'ai entendu un enregistrement auprès de jeunes, et cet enregistrement commence par « prier, prier, prier ». Le message que le père Marie-Joseph voulait faire passer, notamment auprès des jeunes, c'était de savoir apprécier le silence et un temps où ils peuvent descendre en eux-mêmes, développer un sens de l'intériorité et y découvrir que Dieu les y attend. Finalement, c'est la phrase de saint Augustin dans les Confessions. Moi, c'est une parole qui me touche depuis des années, au début des Confessions, quand Augustin dit au Seigneur « Tu étais au plus intime de moi-même, mais moi, je n'y étais pas ». Et le père Marie-Joseph, en bon disciple de François, qui n'était pas un homme qui priait, mais la prière fait homme, disent ses biographes, voulait vraiment conduire ces jeunes sur le chemin de l'intériorité et sur le chemin de la présence de Dieu en eux. Donc il invitait constamment, et pendant les réunions de jeunes et de moins jeunes aussi, il mettait constamment l'oraison et la prière au centre, en disant « c'est ce chemin-là, de la présence, petit p, à la présence, grand p ». C'est pas pour faire de la publicité à votre radio, mais la prière, c'est bien d'être présent à la présence, c'est-à-dire à Dieu qui précède déjà notre conscience que nous en avons de lui.
Alors j'ai trouvé un passage, enfin plutôt pour être tout à fait franc avec les auditeurs, vous m'avez donné un passage dans lequel le père Marie-Joseph dit la chose suivante. Il y a lieu de s'astreindre à temps et à contre-temps à un certain régime et un certain temps de prière. J'aimerais que vous commentiez cela parce que je pense que pour beaucoup, déjà faire le saut de la prière, c'est déjà beaucoup. De persévérer dans la prière, on essaye d'en parler à cette antenne, entre autres avec cette grande série annuelle qu'on a eue avec les Pères Carmes de Toulouse, grande série sur la prière d'oraison. Mais là, on entend quelque chose qu'on a entendu souvent dans cette émission, où Sainte Thérèse d'Avila, je crois, enfin en tout cas pas mal de Pères Carmes, disait qu'il fallait être, c'était la détermination déterminée, prier à temps et à contre-temps, et un certain temps de prière. Qu'est-ce qu'il disait aux fidèles? Vous le savez un peu plus en détail
ou... Ne pas chercher midi à 14h, mais prier, prier, prier encore, prier d'un cœur de bon enfant, simple, franc, disponible à la volonté du Seigneur, et à force de forger, on devient forgeron. Éviter les divertissements inutiles, s'instruire, se plonger dans l'Évangile et l'Eucharistie, tenir au chapelet, à la prière chaque jour. En fait, on se fait une montagne, on psychologise beaucoup la prière, qu'est-ce que je vais dire, est-ce que je ne me parle pas moi-même, etc. Et on oublie que la prière, c'est d'abord d'être en présence de quelqu'un, indépendamment de ce que j'en reçois, des consolations, des sensibilités, parce que Dieu est et qu'il est la source de ce qui est. Donc en fait, la prière, elle commence par un acte de foi. Dieu est, et saint François dirait, cela suffit, et j'entre dans une relation avec quelqu'un qui est présent. Simplement qui n'est pas présent à la manière... pour satisfaire ma sensibilité, etc. Donc il y a d'abord un acte de foi. C'est pour ça qu'on recommande de commencer par une courte prière à l'Esprit-Saint, par la lecture de l'Évangile. Tout ce qui va pouvoir exprimer, comme le dit le père Marie-Joseph, il employait souvent cette expression en référence à la petite Thérèse, hein, il faut avoir un cœur d'enfant. Nous compliquons tout alors que Dieu est essentiellement simple et qu'il veut simplement venir. Alors ouvrez-lui les bras. En fait, la prière, c'est ça. Ouvrez-lui les bras. Et prenez le temps de lui ouvrir les bras chaque jour. Chaque jour, un petit temps. Chaque jour, 5-10 minutes. Moi, dans l'accompagnement spirituel, c'est la première chose, et de manière implacable, j'essaye d'accompagner quelqu'un pour qu'il mette en place la prière quotidienne. Sinon, c'est de la psychologie d'abord, sinon c'est du divertissement, sinon c'est presque de la mondanité, si on n'a pas d'abord ouvert son cœur à la manière d'un enfant.
Le conseil spirituel que vous vouliez développer, c'est... celui...
De la droiture du cœur.
Voilà,
ça, il insistait beaucoup, la droiture du cœur. C'est-à-dire un cœur qui sait chercher le bien, qui sait le voir et qui sait se fortifier dans le bien.
Pardon, alors ça, moi j'avais noté comme conseil spirituel que vous vouliez développer cette assiduité à la prière en citant trois choses qu'il
mais
donnait.
Mais qui participent de la droiture du cœur.
J'imagine, du moins j'espère.
On va en reparler, j'espère.
On parle de ce que vous voulez. Hein. Alors allez-y, lancez-vous sur la droiture du cœur puisque c'est votre choix.
Oui, mais c'est les trois conseils que vous alliez lire. Alors je les lis. Sauvegarder contre vents et marées un climat de silence et de recueillement. Voilà, apprendre à goûter le silence. Paul VI disait que l'homme contemporain a perdu le chemin de son cœur, c'est-à-dire le chemin de l'unité de sa personne. Et sauvegarder contre vents et marées un climat de silence et de recueillement, ben c'est savoir laisser tomber les écouteurs, éteindre la radio, je suis désolé, là je fais une autre publicité mais dans l'autre sens, et savoir finalement goûter la joie d'un recueillement que l'Esprit-Saint peut donner lorsque on sait un petit peu laisser tomber tout ce qui peut nous maintenir à la surface de nous-mêmes, tout ce qui peut nous distraire. Le deuxième conseil, c'est de faire le vide de soi par l'humilité, la simplicité et l'esprit de pauvreté. Voilà, c'est de sortir aussi d'une certaine suffisance. Je n'ai besoin de personne, de rien d'autre. Pour être les mains ouvertes, les mains vides. Moi, j'aime beaucoup. Il y aurait toute une théologie des mains vides à faire par rapport à la spiritualité franciscaine. Et troisièmement, pratiquer la disponibilité du cœur à la volonté et à l'amour. Donc, voyez, goûter le silence, goûter la joie d'être dans la création, de savoir écouter les oiseaux, de savoir écouter tout ce qui nous entoure comme bruit naturel. Ensuite, des mains vides, un chemin d'appauvrissement pour que le Seigneur vienne habiter en nous et pratiquer la disponibilité du cœur. Seigneur, viens agir dans ma vie ici et maintenant. Savoir recevoir pour agir, pour donner.
Je citerai un autre livre, cette fois pour ceux qui voudraient aller plus loin dans la découverte de la vie du Père Marie-Joseph. C'est un livre de Didier Rance, pour ceux qui connaissent Didier Rance, qui a été, je crois, la tête de l'aide à l'Église en détresse pendant de nombreuses années.
Il était historien de formation.
Être la joie de Dieu, un apôtre franciscain au XXe siècle, paru aux éditions Parole et Silence. On fait une pause musicale et puis on vous retrouve pour parler d'une dernière figure fort méconnue. Mais qui devient de plus en plus populaire à Lourdes, puisque, je le disais au début de cette émission, ça ne cesse de défiler sur sa tombe un certain Giacomo da Baldugna.
Gente sprisa le trisa le zitara Gode ad gode ad seram Gibile terra, gibile terra Comin ac festo cadat ecclesia Precadis domini, nodam precadia, nodam precadia Comina festo cadat ecclesia, precadis domini, laudam precadia. Cadeat, cadeat celam, jubile terra. Cadeat gentes, risolet zita. Cadeat celam, jubile terra, jubile terra.
Cadeat celam, cadeat celam, cadeat, cadeat celam, jubile terra, cadeat gentes, risolet, risolet, risolet zita. Cadeat celam, cadeat celam,
présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Les disciples de Saint François d'Assise, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jour. Et si vous nous prenez en cours de route, je vous rappelle que nous sommes avec le frère Éric Bidault, qui est ministre provincial des Capucins en France. D'une manière plus simple, ça veut dire que c'est un peu le supérieur général. C'est pas un peu, c'est le supérieur général de la communauté capucine en France. Dernière figure, donc Giacomo da Balduina. C'est donc un Italien, ça ne surprendra personne, compte tenu de son nom, qui est né en 1900, donc à Balduina, et qui est mort à Lourdes en 1948. On sait peu de choses de cet homme, mais vous allez quand même nous... Si vous avez choisi de nous en parler, c'est que ça vaut le coup. Même question qu'à chaque fois, pardon si je lasse certains auditeurs, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots peut-être d'où sort celui qui est en train de devenir une étoile filante de plus dans l'Église, puisqu'il a été déclaré vénérable par le pape François, et vous m'avez dit en préparant l'émission que son procès en béatification est en cours et qu'elle pourrait être prochaine.
Ben oui, puisqu'une fois que quelqu'un est déclaré vénérable, il faut un miracle qui est présenté actuellement à l'étude, et que, dès que ce miracle est confirmé, eh bien, le pape peut déclarer quelqu'un bienheureux.
Et donc ça pourrait être incessamment sous peu, c'est ça?
Ça pourrait être d'ici un an ou deux, oui, tout à fait, sauf obstacle. Ou...
Parce que le miracle a eu lieu en l'occurrence.
Le miracle a eu lieu, il est en train d'être confirmé. Le père Giacomo, effectivement, on ne sait pas grand-chose, c'est un peu la sainteté de la classe moyenne, hein, dont parle le pape François, ou de la porte d'à côté. C'est-à-dire, voilà, une vie simple, une vie...
Famille d'agriculteurs modestes. 8e de 10 enfants, et à l'âge de 17 ans, il rejoint les frères mineurs capucins. Ça
donc,
fait rêver, non, pour le supérieur que vous êtes.
Il n'y a rien de plus classique. Hein. Voilà, c'est celui qui...
À l'époque, en tout cas, peut-être
c'est
dans cette région
d'Italie. Celui qui voit les capucins à côté de chez lui et qui dit, ces hommes-là, ils ont l'air de vivre de Dieu, et c'est ça que je veux vivre, et j'y vais. Il n'y a pas de grande question métaphysique. Il y va, et assez vite, il va y avoir des symptômes d'une maladie. Et ça va être un chemin, comme on peut le voir dans la vie de Marthe Robin, par exemple, et d'autres, hein, comment la maladie devient un chemin où on est consumé, où on est purifié, où on est finalement totalement travaillé par la présence de Dieu qui devient l'essentiel. Et lui va offrir ses souffrances et sa maladie pour les séminaristes et pour les prêtres. Donc, on pourrait dire une dimension missionnaire dans la maladie, qu'il va petit à petit travailler.
Donc il est atteint d'une encéphalite léthargique, maladie très douloureuse semble-t-il, qui est une sorte de maladie en fait un peu d'Alzheimer, c'est ça
ou... Parkinson.
Parkinson, pardon.
Ça veut dire, voilà, y a...
Avec des suites très douloureuses, et j'ai cru donc comprendre que c'est une des maladies, je ne sais pas si c'est la seule, dont était atteinte aussi Marthe Robin, puisque vous citez Marthe Robin, c'est ce que j'ai vu en préparant l'émission. On ne sait pas grand-chose d'autre de lui, si ce n'est que cet homme passait une grande partie de ses journées à confesser. Il est dit de lui, on l'appelait le confesseur d'Udine, j'imagine que c'est...
Udine, c'est la ville où il voilà. était, c'était le couvent.
On dit de lui qu'il était amical et bon, et donc profondément dévoué à cet apostolat de la confession, et qu'il avait le même don que d'autres saints, en l'occurrence que Saint Padre Pio, qui était lui-même capucin, celui de lire dans les cœurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce don qui est donné à certains de lire dans les cœurs, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors ce don de lecture des âmes, c'est en fait une sensibilité que le Seigneur donne par grâce à certains, une sensibilité à la présence de Dieu, au combat que Dieu mène dans une âme. Alors c'est à la fois un fruit de la vie de prière, je l'ai dit aussi pour le père Giacomo, de sa vie de souffrance, hein, un homme qui est purifié, qui devient vraiment un homme capable d'une écoute profonde. Et en même temps, c'est un don que le Seigneur donne d'être sensible à la manière dont il veut travailler une âme et donc dont le confesseur, que le confesseur pourra accompagner d'une certaine manière.
C'est-à-dire, en fait, c'est quoi? C'est comme un don d'accompagnement. C'est pas, vous n'arrivez pas en confession et puis quelqu'un vous dit, vous n'avez pas besoin de me parler. En gros, il vous arrive ça, ça et ça. Et tiens, vous avez oublié tel
truc.
Non,
parce que le Seigneur est plus subtil, si je puis me permettre.
C'est rassurant.
Si je puis me permettre. Par exemple, chez le Padre Pio, c'était vous ne m'avez pas tout dit. C'est-à-dire qu'il entendait aussi, dans la manière dont la personne se confessait, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas dit, quelque chose qui n'avait pas encore été dit, qui n'était pas sorti. Donc, vous voyez, c'est une sensibilité, j'ai envie de dire, surdéveloppée à la manière dont Dieu est présent et à la manière dont nous dressons des obstacles aussi.
Voilà, je me permettais de demander une précision parce que parmi les gens parfois très spirituels, on peut entendre un peu la course au confesseur qui soi-disant lirait dans les cœurs, etc. Donc c'est à prendre.
Un confesseur, ça reste un confesseur et il agit au nom de l'Église. Donc en un sens, ils sont tous bons, même quand ils sont un peu durs ou, ou rustres.
Alors, c'était ce qui était le cas de Padre Pio.
Et il disait bien aux autres, surtout ne m'imitez pas là-dedans, parce que ce n'est pas une qualité, disait-il.
Cet homme, donc, Giacomo da Balduina, décède en 1948 lors d'un pèlerinage à Lourdes, et il est enterré là-bas. On dit qu'il meurt en chantant le Magnificat, donc ce chant de la Vierge Marie rapporté au moment de la visitation dans les évangiles. Et depuis, c'est comme si, en fait, on découvrait sa sainteté, puisque, dites-nous ce qui se passe sur sa tombe, peut-être où est sa tombe et ce qui se passe sur sa tombe, vous qui êtes allé ou qui allez régulièrement vous recueillir sur sa tombe.
Alors déjà, ce voyage, tout le monde lui avait déconseillé d'aller à Lourdes, c'était en train, il venait de la province donc de Venise, donc vous imaginez, vous traversez tout le nord de l'Italie, tout le sud de la France, c'était déjà quasiment la mort annoncée. Mais il y avait chez le père Giacomo vraiment un désir, comme chez le père Marie-Antoine dont nous avons parlé, comme chez le père Marie-Joseph, d'ailleurs il porte le nom de la Vierge Marie, d'aller visiter l'Immaculée. Et il descend du train, on l'emmène à l'hospice parce qu'il faisait partie des malades, et là il meurt sans aller à la grotte. Il est enterré au carré des étrangers, au nouveau cimetière, vraiment inconnu, et le miracle, des pèlerins viennent en nombre, viennent fleurir sa tombe. Et aujourd'hui, quand vous allez au nouveau cimetière à Lourdes, vous entrez, vous avez un panneau qui vous dit la tombe du père Giacomo, la tombe du père Jacques, elle est par là, donc déjà le chemin est fléché. Et à chaque fois que je me suis rendu sur sa tombe, il y avait toujours quelqu'un qui était en train de prier et il y avait toujours quelqu'un qui arrivait. Alors moi je demande, mais comment vous connaissez le père Jacques? Vous venez faire quoi? Ah, bah c'est un hospitalier qui m'a dit, quand tu vas à Lourdes, va sur la tombe du père Jacques. Une autre fois, c'est un habitant de Lourdes qui me dit, quand je viens prier sur la tombe de mes parents, je passe toujours voir le père Jacques. Et la tombe du père Jacques est constamment fleurie. Et c'est un lieu, c'est un lieu de douceur, hein, c'est un lieu de la paix de l'âme. Et le père Jacques, il n'a rien écrit, à la différence du père Marie-Joseph, du père Marie-Antoine, qui racontait beaucoup, beaucoup dans ses lettres tout son apostolat, donc on a beaucoup de sources. Le père Jacques, c'est maintenant, j'ai envie de dire, comme les autres aussi, mais d'une manière particulière, c'est maintenant qu'il se révèle. C'est maintenant que sa compassion, que son visage de miséricorde, que son compagnonnage, disons, éclate au grand jour.
Alors j'ai trouvé, puisqu'il y a un site qui doit être peut-être un site en vue de sa prochaine béatification qui existe, www.padre-giacomo-filon.com, rien que ça. Deux, trois témoignages juste pour illustrer ce que vous venez de dire. Une certaine Luciana Pavan qui en 2000 a rapporté en tout cas ce témoignage. Elle s'était rendue à Lourdes alors qu'elle rentrait dans un magasin à Lourdes pour acheter des souvenirs. On lui a indiqué donc le cimetière, preuve que peut-être les commerçants qui n'ont pas toujours bonne presse à Lourdes sont aussi des gens qui savent parler de Dieu, parenthèse refermée, et cette femme raconte qu'elle regarde la photo du père Giacomo, je me sentis tout à coup toute bizarre, je sentis des frissons traverser mon corps et commençais à pleurer sans réaliser que je m'étais allongé devant la tombe, c'était des pleurs de joie, de bonheur que je ne peux décrire et que je n'avais jamais versé jusque là, j'étais heureuse, c'est ce qu'on appelle dans le jargon quoi, vivre une forme d'effusion de l'Esprit Saint, c'est ça?
Oui, oui, une visite de l'Esprit Saint avec des signes extérieurs, et notamment les larmes. Les larmes peuvent exprimer comme un chemin de purification quand le Seigneur visite. Saint François avait le don des larmes. Quand il pleurait devant la croix, c'est que, voilà, il y avait en regardant comment l'amour se donne, et ben il était purifié de l'intérieur, et les larmes exprimaient ce chemin de purification.
Alors le point sur lequel vous vouliez insister, c'est, vous avez commencé à en parler, le pape François en parle dans son exhortation apostolique sur la sainteté, et qu'on a pas mal commenté à cette antenne, c'est la sainteté de la porte d'à côté.
Oui.
Qu'est-ce que vous voudriez nous dire là-dessus fort de...
Ben, on pourrait faire référence à Madeleine d'Elbrel aussi, hein, la vie de la sainteté des gens ordinaires. C'est-à-dire, c'est dans les choses déjà ici et maintenant que Dieu veut agir, veut transformer et que le royaume arrive. J'aime bien chez Madeleine d'Elbrel, je fais une petite excursion ailleurs, en région parisienne. Voilà, quand elle dit « quelqu'un toque à la porte, c'est Dieu qui vient ». Quelqu'un me demande quelque chose, c'est Dieu qui me le demande. Cette simplicité du cœur d'enfant, pour paraphraser le père Marie-Joseph, qui fait voir, accueillir Dieu dans des choses très ordinaires. Alors le pape François, effectivement, dans Gaudete et Exultate, au numéro 14, par exemple, il dit bien, hein, nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. C'est en fait passer d'une dimension recourbée sur moi-même, dans son petit pré carré, à un cœur ouvert, à une dimension, on pourrait presque dire, pour prendre la position du corps, hein, redresser une vie réorientée. Et donc une vie réorientée qui tient compte d'une sensibilité, d'une capacité d'ouverture, qui tient compte d'un cœur priant, on en a parlé avec les deux autres figures, et qui sait, dans des situations très concrètes, ici et maintenant, comme dirait le Deutéronome, choisir la vie et non pas le chemin de la mort. Le pape François cite l'exemple, par exemple, voilà, la personne qui va faire son marché ou qui est dans un magasin ou qui rencontre quelqu'un, qui choisit de ne pas médire, qui préfère se taire, mordre sa langue, le silence, à la médisance, c'est-à-dire à ce qui va être destructeur de la réputation d'autrui ou d'une situation. Ça peut être aussi le sourire de la religieuse, âgée, malade, perclue. J'étais récemment chez les Clarisses, ici à Toulouse, et je parlais aux sœurs, et puis je me tourne vers une sœur grabataire, et à ce moment-là, elle a un sourire et des lèvres qui se mettent à resplendir vraiment de la présence de Dieu. Et ses sœurs me disent, c'est une sainte, c'est une sainte. Et le sourire, la joie exprimée alors qu'elle est, elle est âgée, elle n'entend pas, elle est dans son fauteuil roulant, la joie exprime un cœur saint visité par Dieu.
Vous vouliez, pour finir, proposer un conseil peut-être pour entrer dans cette sainteté des gens ordinaires ou cette sainteté du quotidien, fort de cette figure de sainteté, Giacomo da Balduina, dont on sait peu de choses et qui pourtant sent bon de Dieu, si je puis dire, si je puis utiliser cette expression qui ne doit pas être très française. Quel est ce conseil pour finir?
Elle rejoint la théologie spirituelle parce qu'on parle bien de l'odeur de sainteté. Hein, quelqu'un qui est en odeur de sainteté. Donc il y a quelque chose des sens, hein. Il y a quelque chose de la vue, il y a quelque chose de l'odorat aussi, c'est vrai. C'est le conseil que je me donne à moi-même quotidiennement, donc on peut partager ce qui nous fait vivre. C'est ce que saint François dit en invitant à se réjouir du bien que le Seigneur fait dans les autres. Se réjouir du bien que le Seigneur fait dans les autres, c'est apprendre à ouvrir les yeux, à le voir, à ne pas être sur le registre de la comparaison, de la jalousie, de sentiments plutôt mortifères, mais déjà de la joie de ce qui est bien, parce que c'est le bien qui est constructif. Quand j'accompagne des fiancés au mariage, je leur dis, il faut que vous prévoyiez une rencontre quotidienne avec deux questions.
Quotidienne ou hebdomadaire ?
Hebdomadaire, pardon.
Vous m'aviez dit hebdomadaire. Hein,
oui, hebdomadaire est quand même plus prudent. Quotidiennement, ça pourrait être intéressant, mais il ne faut peut-être pas rêver. Qu'est-ce que j'ai découvert de beau en toi depuis la semaine dernière ? Donc, être sensible à la beauté de l'autre dans des gestes, dans des attitudes, dans des manières d'être simples. Et deuxième question, qu'est-ce qui m'a blessé dans tes paroles ou dans tes attitudes ? C'est-à-dire que tout l'enjeu, c'est de progresser sur le chemin de la communion, c'est-à-dire sur le chemin d'une relation profonde telle que Dieu la veut avec lui et entre nous. Qu'est-ce que j'ai découvert de beau en toi et qu'est-ce qui m'a blessé ? Voilà, et je te le dis pour que tu me connaisses aussi dans mes faiblesses, dans ma fragilité, dans ma sensibilité. Voilà, donc se réjouir du bien que le Seigneur fait dans les autres, c'est ce que saint François nous laisse comme conseil.
Eh ben, merci beaucoup. Je rappelle les trois figures de sainteté à découvrir. Donc, le père Marie-Antoine de Lavore, même s'il est bien connu d'une partie de nos auditeurs, avec ce livre « Mes souvenirs » paru aux éditions du Pêche. Le père Marie-Joseph, donc, avec un autre livre « Être la joie de Dieu » paru aux éditions « Paroles et silences » de Didier Rance. Et le père Giacomo da Balduina, il faut aller sur sa tombe à Lourdes, donc au cimetière de Lourdes, c'est bien ça. Hein,
voilà, au nouveau cimetière de Lourdes, donc au nouveau cimetière, derrière l'église paroissiale. Et donc on a appelé figure de sainteté, mais il faut prier pour que les trois, justement, soient béatifiés. Donc il faut que tous vos auditeurs soient dans une fervente prière pour que l'église donne de nouveaux visages de bienheureux pour nous aujourd'hui. Merci.
Merci beaucoup Frédéric Bidot d'être passé par les studios de Radio Présence. Vous venez quand vous voulez, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet sous notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.